France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la première intifada. Cette première révolte de la population palestinienne dans les territoires administrés par Israël marque un tournant dans l'histoire du conflit israélo-palestinien et prend évidemment une dimension particulière après la tragédie du 7 octobre dernier, une saisissante résonance. Soulèvement populaire qui prend de court les responsables israéliens comme palestiniens, la première intifada est surnommée la guerre des pierres. De 1987 à 1993, un long et violent mouvement de fond s'empare de la Cisjordanie et de Gaza. Après 20 ans de présence des forces de Tsahal et après une colonisation intense des territoires palestiniens, la population s'empare des rues et se lance dans une guerre qui prend l'armée au dépourvu et qui surtout marque l'avènement d'une formation politico-militaire nommée Hamas. Autrement dit, c'est au moment de cette intifada que naît le monstre qui, 36 ans plus tard, le 7 octobre dernier, infligera à Israël son traumatisme majeur, son 11 septembre. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Mettezo, journaliste à France Inter, ancien correspondant à Jérusalem et auteur du podcast « Guerre au Proche-Orient ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Gaspard Vallu, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Mardi 8 décembre 1987, bande de Gaza. En cette fin de journée, la file de voitures qui se présente devant l'un des checkpoints d'entrée sur le territoire palestinien est longue, très longue. Des milliers de travailleurs arabes revenant des chantiers ou de fermes sur le sol israélien patiente comme chaque jour pour rentrer chez eux. Soudain, un immense fracas retentit. En bout de fil, un semi-remorque conduit par un citoyen israélien percute violemment les derniers véhicules. L'accident fait 4 morts et 7 blessés. Dès le lendemain matin, le camp de réfugiés de Jabalia pleure ses morts. Des milliers de Palestiniens se réunissent pour participer à une importante procession funéraire. Mais l'ambiance n'est pas au recueillement, non. La tension est palpable et l'atmosphère est électrique. Dans le cortège, composé en grande partie de femmes éplorées, de jeunes adolescents, parfois même d'enfants, une rumeur se répand. La mort des 4 Palestiniens n'est pas accidentelle. C'est un acte de représailles commis par un Israélien voulant venger la mort d'un de ses concitoyens tué 2 jours plus tôt aux abords d'une colonie israélienne à Gaza. Au fil des minutes, la foule, toujours plus nombreuse, monte en pression et une partie de cortège se dirige maintenant vers un petit poste de surveillance de l'armée israélienne où sont stationnés une poignée de soldats. Face à ces quelques hommes en armes, des milliers de jeunes Palestiniens décident de passer à l'action. Grâce à des frondes ou à la force de leurs bras, les réfugiés font pleuvoir les pierres. La tôle de la guéritz tremble et les soldats acculés décident d'ouvrir le feu. Mais les tirs de sommation n'y changent rien. Les jeunes Palestiniens, toujours plus nombreux à rejoindre l'attroupement, continuent de lancer leurs projectiles. Les coups de feu sont maintenant dirigés directement vers la foule. Plusieurs adolescents tombent au sol. Le soulèvement populaire qui s'ensuit dans les territoires palestiniens est inédit.
La prière du vendredi vient de s'achever, les manifestants sont plus décidés que jamais. Depuis mardi, dans de semblables rassemblements, 4 Palestiniens ont trouvé la mort. En face, les gardes frontières, souvent druzes, et des hommes de l'unité Givati. Plusieurs compagnies ont été dépêchées sur place en renfort. Nous sommes en Cisjordanie, dans le camp de Balata, à quelques kilomètres de la ville nationaliste de Naplouse. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place et à l'hôpital, les forces armées israéliennes auraient même gêné le travail des ambulanciers. En fin d'après-midi, le bilan était lourd, 4 autres morts. À l'extrême sud-ouest du pays, dans la bande de Gaza, une véritable poudrière où vivent 600 000 personnes, les mêmes scènes et d'autres blessés. Aujourd'hui encore, malgré le couvre-feu, les affrontements se poursuivaient. Cette semaine, sanglante, 8 morts officiellement, vient alourdir le climat qui règne en Israël depuis le raid meurtrier d'un commando palestinien au nord du pays, fin novembre.
Comprendre les ressorts de cet événement qui va remettre en cause le fragile statu quo qui prévalait jusque-là, il faut remonter dans le temps.
«
5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Pendant ce temps, une autre colonne va réduire la bande de Gaza, ce territoire en doigt de gant entre Israël et la mer. C'est ici que vivent dans des conditions précaires des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Le terrain est incertain. Plusieurs journalistes en ont fait ici la tragique expérience. La conquête de Gaza sera l'une des plus meurtrières de la campagne. Il faudra réduire rue par rue cette ville de 100 000 habitants. La phase militaire du conflit israélo-arabe est terminée. Elle aura été fulgurante. La phase diplomatique commence. Elle sera sans doute infiniment plus longue.
La victoire éclair d'Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967 ne constitue pas qu'un succès militaire de premier plan. C'est aussi un chamboulement géopolitique. Car à l'issue de ce conflit, c'est toute la carte du Moyen-Orient qui est redessinée. Après avoir écrasé les troupes arabes, l'armée israélienne s'empare de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, jusqu'ici sous contrôle de la Jordanie. Au nord, c'est le plateau stratégique du Golan qui est arraché aux mains de la Syrie. Au sud, la bande de Gaza et le désert du Sinaï, contrôlé par le Caire, passent sous administration israélienne. En 6 jours seulement, l'État hébreu a triplé sa superficie. Pour la population palestinienne, la conséquence est radicale. Après l'exode de 49, les territoires palestiniens passent sous le contrôle des forces israéliennes. Et rapidement, des populations civiles s'installent elles aussi sur ces mêmes territoires. Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, des dizaines d'implantations voient le jour. La colonisation des territoires palestiniens permet à l'État hébreu de s'emparer de régions stratégiques. Les terres fertiles sont exploitées et les ressources en eau sont strictement contrôlées. En quelques années seulement, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens investissent ces nouveaux territoires que l'État hébreu compte bien conserver, comme l'explique le responsable d'un kibboutz en Cisjordanie dans un reportage pour la télévision française en 1972.
Eli Sommer, à 28 ans, est responsable de 100 personnes au kibboutz de Kfar Etzion, à 25 km de Jérusalem.
Il y a tout d'abord très certainement un souci politique qu'il ne faut pas cacher. Et la raison étant qu'en Israël, on a toujours voulu qu'un territoire qui est israélien soit un territoire cultivé. En ce qui concerne les territoires de Cisjordanie, les villages qui ont été implantés n'ont été implantés que dans des régions qui, selon les plans israéliens, sont des régions qui resteront d'une manière ou d'une autre sous contrôle israélien.
Pour la population palestinienne de Gaza et de Cisjordanie, l'occupation israélienne est à double tranchant. La construction des implantations entraîne un développement important des infrastructures. Des routes, des hôpitaux et des réseaux d'approvisionnement en eau sont ainsi construits. L'économie également en profite. En quelques années seulement, le niveau de vie de la population augmente de 25%. De nombreux Palestiniens naviguent chaque jour entre les territoires et l'État d'Israël, où ils sont employés sur des chantiers ou dans des fermes. Des emplois sous-qualifiés, certes, mais bien payés, qui attirent près de 40% des travailleurs palestiniens hors de Gaza et de Cisjordanie. Israël encourage aussi le développement de l'éducation. Alors que la Cisjordanie ne comptait aucune université avant la guerre des Six Jours, ce sont très vite une dizaine d'établissements qui sont construits. Un contexte qui favorise également l'émergence d'une élite palestinienne. Employée à des postes clés de l'administration, cette nouvelle classe sert de relais au pouvoir israélien auprès des populations arabes. Mais ce développement cache une autre réalité. L'explosion de la natalité chez les Palestiniens rend la vie de plus en plus difficile dans ces territoires réduits où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés, particulièrement dans la bande de Gaza. La jeunesse désemparée s'enfonce alors dans le chômage ou se résigne à occuper des postes sous-qualifiés alors même que le nombre de diplômés augmente et à toute vitesse. La réalité de cette situation est aussi celle de la violence et des humiliations parfois. L'activisme palestinien fait l'objet d'un contrôle constant des forces israéliennes et la répression est permanente. Les arrestations, les interrogatoires musclés sont quotidiens. Les Palestiniens, activistes ou non, vivent avec une liberté de mouvement réduite à son strict minimum et doivent apprendre à composer avec les incessants contrôles et irruptions de soldats israéliens dans leur vie.
Ici,
Une villa ordinaire, pas plus suspecte qu'une autre, le hasard, la routine. La femme explique que la maison est vide parce que les hommes sont partis travailler à l'étranger, qu'elle vit ici avec sa vieille mère, qu'elle ne fait pas de politique, que personne ne vient dormir chez elle, qu'elle a bien trop peur, qu'elle n'a jamais dit du mal des juifs, que tout ce qui est là lui appartient, que si elle n'a pas ouvert tout de suite, c'est qu'elle était dans la cuisine, qu'elle n'a rien entendu, que sa vieille mère est un peu sourde. Au carrefour suivant, alors que les jeeps sont sortis de Ramallah, les soldats ont encore giclé des véhicules, barrant les routes. Là encore, descendus du car, les passagers arabes sont fouillés, contrôlés, interrogés. On lit la crainte dans les regards, comme celui-là, auquel il manque justement un papier et qui va être emmené.
Face à cette situation, la population palestinienne ne peut compter que sur elle-même. L'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat depuis 1969, est en déroute. Expulsée des territoires palestiniens après la guerre des Six Jours, elle a aussi été de Jordanie en 1970 pendant Septembre Noir, puis du Liban en 1982. L'OLP trouve finalement refuge à l'autre bout de la Méditerranée, en Tunisie. Mais à plus de 2000 km de leur territoire, les responsables palestiniens se focalisent sur les actions violentes et les actes terroristes menés par les fellahines depuis le Liban, Gaza ou la Cisjordanie. Et ils en oublient les préoccupations quotidiennes des Palestiniens, dont une partie trouve refuge dans la religion. Pour cette population, un autre tournant majeur intervient à la fin de la décennie 70 sur la scène internationale, cette fois. Alors que la cause palestinienne était au centre des revendications des pays arabes depuis 1967, ses alliés, apparemment naturels, se détournent peu à peu du sujet.
Hier soir, 20h, sur la pelouse de la Maison-Blanche. Carter, vive la paix.
Not passive. Peace is doing.
Sadat, vive la paix. Begin en hébreu, vive la paix. Voilà, il est 20h06, heure de Paris, le traité de paix entre Israël et l'Égypte est enfin signé. Il aura fallu 502 jours de négociations, des heures et des heures de marchandages, des dizaines et des dizaines de voyages au Proche-Orient. Évidemment, sur le terrain, rien n'est réglé, mais le premier pas est fait. Begin et Sadat ont bien mérité leur prix Nobel de la paix. Le premier ministre israélien veut d'ailleurs renvoyer l'ascenseur. Il a proposé que Jimmy Carter reçoive lui aussi le prix Nobel.
La paix israélo-égyptienne signée en mars 1979 est un coup dur pour les Palestiniens, car ils perdent l'un de leurs principaux alliés. Un coup de poignard, alors même que leur situation ne fait qu'empirer. Car plus le temps avance et plus Israël s'étend. Et la population palestinienne, toujours plus nombreuse, fait face à une armée israélienne intrusive et parfois brutale. Le nombre d'implantations de colonies juives a également augmenté. Rien qu'à Gaza, elles sont une vingtaine, abritant plusieurs milliers de colons, décidés à ne rien céder aux Palestiniens. C'est une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour s'enflammer. C'est à partir de la fin de l'année 86 que les événements s'accélèrent. En décembre, d'importantes manifestations étudiantes sont réprimées dans le sang, faisant plusieurs victimes. Les arrestations et les passages à tabac se multiplient. Puis au cours de l'année 87, au moins 2 enfants palestiniens sont abattus par des soldats israéliens. L'évasion de 7 terroristes islamistes d'une prison israélienne provoque également une immense chasse à l'homme et la mort de plusieurs personnes. Au mois de novembre, la population se désole de voir les dirigeants arabes reléguer la question palestinienne au second plan lors du dernier sommet qui s'est tenu en Jordanie. Partout sur les territoires palestiniens, les graffitis fleurissent sur les murs et les appels à la révolte se multiplient. En vérité, la jeunesse n'attend qu'un signe, oui, un signe de faiblesse du camp israélien pour passer à l'action. Le signe arrive finalement des frontières du Nord. Dans la nuit du 25 novembre, un commando palestinien parti du Liban réalise l'une des plus retentissantes incursions sur le territoire israélien.
Cela s'est passé en début de soirée. Un Palestinien venu du sud Liban a réussi à franchir la frontière israélienne à bord d'un ULM. Il a atterri à l'est de la ville de Kiryat Shmona, en Haute-Galilée. Il a pénétré dans une base militaire, tirant des rafales de pistolets mitrailleurs et lançant des grenades. 6 soldats israéliens ont été tués et 9 autres blessés avant que l'assaillant ne soit abattu. L'alerte a été déclenchée, toute la population de la région est descendue dans les abris, les routes sont barrées, les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. L'armée tient en effet à vérifier s'il n'y a pas eu d'autres infiltrations depuis le sud Liban. Selon des informations non confirmées, un second Palestinien se trouverait toujours dans le secteur. C'est l'incident le plus grave depuis 1982 et il serait surprenant qu'Israël ne réagisse pas d'une manière ou d'une autre.
L'écho de cette opération traverse les frontières des territoires occupés et partout à Gaza et en Cisjordanie, les adolescents palestiniens scandent 6 contre 1 face aux soldats israéliens. Alors, quand le 9 décembre 87, la foule se révolte après la mort de 4 réfugiés dans un accident de la route, tous les ingrédients sont réunis pour embraser la Palestine. La première intifada.
France Inter, affaires sensibles.
Dans le camp de réfugiés de Jabalia, les jours se suivent et se ressemblent. Après la journée du 9 décembre, les violences se poursuivent et une pluie de pierres et de cocktails Molotov continue de s'abattre sur les soldats israéliens. Pourtant, à Jérusalem, le gouvernement dirigé par Itzhak Shamir ne semble pas prendre la mesure de la révolte qui fait rage au nord de la bande de Gaza. Non, personne ne croit à la pérennité de ce mouvement. À tel point que le ministre de la Défense, Itzhak Rabin, ne juge pas nécessaire d'annuler son voyage de 10 jours aux États-Unis. Mais à son retour, il ne peut que constater une situation qui empire. Les manifestations sont quotidiennes et les rapports sont accablants. À la mi-décembre, c'est toute la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est qui sont en proie à la révolte. Les camps et les grandes agglomérations sont quadrillés, le barrage de pneus enflammés. Les morts palestiniens s'accumulent et le nombre de soldats israéliens blessés augmente chaque jour. À Tunis également, le mouvement prend les caciques de l'OLP au dépourvu. C'est en tant que spectateur que Yasser Arafat et les dirigeants palestiniens suivent cette poussée de fièvre populaire qui prend de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là que le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, découvre l'existence d'un organe qui semble être à la tête du mouvement. Dès la fin du mois de décembre 87, des agents rapportent la multiplication de tracts de coordination de l'intifada. Ils portent le sigle d'un mystérieux commandement national unifié. Le premier de ces tracts ne laisse pas de place au doute quant à l'objectif de ce nouvel acteur du conflit.
Il faut barrer les routes aux forces d'occupation. Il faut empêcher ces lâches soldats de pénétrer dans les camps de réfugiés et les centres de forte population en dressant des barricades et en incendiant des pneus. Il faut jeter des pierres sur la tête des soldats et de ceux qui collaborent avec eux. Les drapeaux palestiniens doivent flotter sur les minarets, sur les églises, sur les toits et sur les poteaux électriques. Nous devons faire brûler le sol sous les pieds des occupants. Que le monde entier sache que le soulèvement volcanique que le peuple palestinien a déchaîné ne s'arrêtera pas avant la création d'un État palestinien dont la capitale sera Jérusalem.
Lancé par des hommes proches des mouvements indépendantistes à Jérusalem, le commandement national unifié s'émancipe immédiatement de la direction de l'OLP à Tunis. Sans concertation avec les cadres, ils mettent en place les réseaux de rédaction, d'impression et de distribution des tracts dans les territoires palestiniens. Grâce à de nombreux comités locaux, ils parviennent rapidement à coordonner la conduite de l'intifada. S'ils appellent la population à descendre dans la rue, ils actionnent aussi le levier de la désobéissance civile. Dans le tout premier tract distribué à Gaza et en Cisjordanie, le commandement lance ainsi un appel à la grève générale pour les premiers jours de l'année 88. Grâce à cette mesure, jusque-là mise de côté par les mouvements nationalistes palestiniens, le mystérieux commandement parvient à déstabiliser l'État hébreu. Parce que les grèves durent des mois et impactent durement l'économie israélienne. Le secteur du bâtiment est à l'arrêt, l'agriculture tourne ralenti. Le boycott des produits israéliens et la grève de l'impôt suscitent des débats houleux d'ailleurs à la Knesset, le Parlement israélien. Il faut dire que le gouvernement a perdu près de 40% de ses revenus dans les territoires. Mais si l'initiative du commandement national unifié fonctionne, elle suscite la colère de Yasser Arafat, qui refuse de perdre la main face à cette nouvelle entité. Alors, des contacts sont noués dès les premières semaines de l'intifada. Après d'intenses négociations, les responsables du commandement acceptent d'associer l'organisation à son action en la citant dans ses tracts et en y apposant le sigle de l'OLP. Bien. Mais s'ils écoutent certains conseils, ils refusent toujours de suivre aveuglément les ordres de Tunis. Une décision confortée durant le printemps et l'été 88, alors que les réseaux du commandement tournent à plein régime. Mais le 15 novembre, près d'un an après le début de l'intifada, Yasser Arafat porte un coup fatal à l'autonomie du commandement unifié. Depuis Alger, le vieux dirigeant de l'OLP diffuse une déclaration historique.
Un État est né, cette nuit il portera le nom de Palestine et Jérusalem en sera la capitale. Il était 1h38 lorsque Yasser Arafat, coiffé de son traditionnel keffieh blanc et noir, a proclamé l'établissement d'un État palestinien indépendant. Alain Ménargue, à Alger.
Lorsque Yasser Arafat est apparu à la porte de l'hémicycle vers 1h15 du matin, ce fut un tonnerre d'applaudissements. Avance, avance, nous te suivons, scandaient les parlementaires. La voix brisée par l'émotion, il a annoncé la création de l'État palestinien. Une formidable ovation éclata, l'Assemblée se leva, embrassade, chant, you-you de joie, larmes de bonheur. La solennité revint avec l'hymne palestinien, puis les congratulations avec l'expression « bientôt à Jérusalem », qui est également un salut israélien.
Grâce à cette déclaration qui fait le tour du monde, Yasser Arafat parvient à remplir plusieurs objectifs. En proclamant la création d'un État palestinien, il galvanise les foules dans les territoires occupés et il reprend l'ascendant sur le commandement unifié. Sa reconnaissance de la résolution 242 de l'ONU et donc du droit d'Israël à exister ainsi que sa promesse de l'abandon du terrorisme, lui assure également une nouvelle stature internationale. Il est enfin un acteur incontournable dans les négociations à venir et dans lesquelles les Palestiniens étaient jusque-là tenus à l'écart. Mais si l'OLP reprend les commandes pour l'intifada, elle doit faire face à un nouvel adversaire de l'intérieur. Poussée par les autorités israéliennes depuis plusieurs années pour faire concurrence à Yasser Arafat et ses alliés, justement, les religieux prennent part au conflit. Historiquement incarné par les frères musulmans et son leader spirituel, le cher Ahmed Yassin, l'organisation s'est muée sous la pression des fidèles en un nouveau groupe actif dans l'intifada. Un groupe bientôt baptisé Hamas. Dès février 88, Shin Bet relève la présence de tracts portant le sigle de cette nouvelle organisation. Impliqué dans des attentats contre des civils et des militaires israéliens, ce nouvel acteur du conflit publie sa charte en août 88. Ses responsables militent pour la création d'un État palestinien islamique et se dit ouvertement antisémite avec une obsession, la destruction de l'État hébreu. Et très vite, le Hamas devient une force majeure du conflit, particulièrement présent dans la bande de Gaza.
N'oubliez jamais que l'objectif de chacun est de tuer chaque juif et chaque colon.
Signature omniprésente sur les murs de Gaza, appel permanent à cette guerre sainte, déjà structurée par Hamas, le mouvement de la résistance islamique. Violence latente, fanatisme, fascination d'une population complice. On scande aux porte-voix qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mahomet est son prophète, et que les Juifs doivent mourir.
Et tout oppose l'OLP et le Hamas. L'un, le premier, est laïque et reconnaît désormais l'existence d'Israël. L'autre est fondamentalement religieux et veut la destruction de l'ennemi juif. Pourtant, dans les premières années, les deux mouvements vont cohabiter. L'heure n'est pas encore une guerre fratricide et l'intifada se poursuit. Pour pérenniser le soulèvement, les Palestiniens partent à la chasse aux collaborateurs. Dès les premiers mois, de nombreux civils jugés trop proches des Israéliens sont abattus. Les informateurs de Shin Bet sont traqués, éliminés. Les policiers arabes de Gaza et de Cisjordanie sont menacés et quand ils ne quittent pas leur poste, ils sont exécutés. Durant les premières années de l'intifada, ce sont ainsi des centaines de Palestiniens qui sont exécutés par des hommes de leur propre camp. Les mois de manifestations, la persistance de la désobéissance civile palestinienne et l'élimination des collaborateurs mettent à mal le gouvernement israélien, incapable de stopper le mouvement en cours. Après avoir sous-estimé l'ampleur de la révolte, les autorités israéliennes réalisent dans le courant de l'année 88 que la machine est lancée et qu'il va être compliqué de l'arrêter. L'armée, entraînée au combat de guerre conventionnel, est désarçonnée face à des manifestants, généralement adolescents, armés de frondes et de cocktails Molotov. La société israélienne, comme son gouvernement, se déchire sur la méthode à adopter face à la révolte palestinienne. Les partisans d'une réponse forte et sans concession veulent encourager les tirs à balles réelles, quand d'autres cherchent une solution moins radicale. Dans le documentaire « Première intifada 1987-1993 », Ehud Barak, alors chef d'état-major des armées, se souvient des discussions en cours au gouvernement.
Certains des ministres ont émis des suggestions à donner le frisson. Je ne veux même pas m'en souvenir. Par exemple, l'idée qu'il fallait envoyer des tanks, ouvrir le feu, et que 1000 morts plus tard, plus personne n'oserait relever la tête. Mais pour nous, il était clair que 1000 morts, en dehors même du fait qu'il s'agirait d'une effusion de sang inutile, rendrait les choses pires encore. Elle mettrait Israël dans une situation impossible et ferait de nous des criminels de guerre.
Si les responsables israéliens refusent finalement de déployer des chars et d'ouvrir le feu, Yitzhak Rabin, le ministre de la Défense, est sommé de ramener l'ordre. Après plusieurs semaines de manifestations, d'importants renforts sont envoyés sur place. Les militaires reçoivent enfin du matériel anti-émeute. Casques et boucliers, matraques et fusils chargés de balles en caoutchouc deviennent ainsi les nouveaux équipements standards des soldats déployés dans les territoires palestiniens. Yitzhak Rabin ordonne également d'éliminer les responsables des mouvements insurrectionnels. Dès le mois de février, les services de renseignement parviennent à mettre la main sur les principaux dirigeants du commandement national unifié. La plupart sont expulsés vers le Liban, mais quelques figures épargnées parviennent rapidement à constituer une cellule dirigeante et le mouvement persiste. Les responsables israéliens frappent également l'OLP. En avril 88, des agents des forces spéciales sont envoyés à Tunis. Leur cible, Abu Djihad, numéro 2 de l'organisation et proche de Yasser Arafat. C'est lui qui est en charge des opérations militaires sur le territoire. Il est tué devant sa femme et ses enfants. Mais là encore, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les manifestants, galvanisés par la mort d'un des leaders historiques de la cause palestinienne, redoublent d'intensité dans leur confrontation avec l'armée. Le gouvernement d'Itzhak Shamir décide également de s'attaquer aux islamistes du Hamas, parce que l'organisation religieuse qu'Israël a pourtant aidé à faire émerger est devenue un monstre incontrôlable. Après plusieurs attentats sanglants contre des civils et des militaires israéliens, les militants du Hamas deviennent des cibles prioritaires. En août 88, près de 200 militants de la branche armée du mouvement sont arrêtés et emprisonnés dans l'un des nouveaux centres construits pour faire face justement à l'afflux de prisonniers. En 89, le cher Yassine est lui aussi arrêté avec d'autres responsables du Hamas. Il sera finalement pulvérisé par une roquette israélienne sur son fauteuil roulant le 22 mars 2004. De nouvelles lois sont votées, les arrestations de masse se généralisent, les expulsions et les destructions de maisons aussi. Mais toutes ces mesures n'y changent rien. Le soulèvement se poursuit inlassablement. Au fur et à mesure que le conflit se prolonge, l'image d'Israël se détériore à l'étranger. Les caméras du monde entier captent quotidiennement la répression qui s'abat sur les jeunes manifestants palestiniens. Et l'État hébreu se retrouve sous le feu des critiques. En octobre 90, alors que le conflit semble perdre en intensité et que la communauté internationale a les yeux rivés sur l'Irak alors en guerre contre une coalition internationale, l'un des événements les plus marquants de l'intifada survient.
Au moins 22 morts et plus de 150 blessés dans l'enceinte de l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est, près du mur des Lamentations. La police israélienne a tiré sur des manifestants palestiniens qui attaquaient à coups de pierre des juifs en train de prier. À Jérusalem, Pierre Veil.
Depuis plusieurs jours, on s'attendait à des affrontements violents dans ce secteur de la vieille ville de Jérusalem. Des extrémistes juifs du mouvement des fidèles du Mont du Temple avaient annoncé qu'ils tenteraient de pénétrer sur l'esplanade des mosquées qu'ils veulent libérer de la présence arabe. Dès vendredi, les dignitaires religieux musulmans avaient appelé les fidèles à venir défendre l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Ce matin, des centaines de Palestiniens avaient répondu à cet appel et des pierres ont été lancées sur les milliers de juifs rassemblés en contrebas devant le mur des Lamentations. C'est un massacre. Pour les Israéliens, notre vie n'a aucune importance. Ils ne connaissent que la violence, déclarent ce soir plusieurs responsables palestiniens.
Après ces affrontements au Mont du Temple, les territoires palestiniens connaissent de nouveaux épisodes violents. La désescalade n'intervient finalement que quelques mois plus tard, au début de la décennie 90. À la suite de la première guerre du Golfe, perdue par l'Irak, les États-Unis engagent de grandes manœuvres et des discussions avec les différents acteurs du Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien est évidemment sur la table. Désormais inclus dans les discussions, Yasser Arafat, dont les positions ont évolué en 88, s'affirme comme le représentant légitime du peuple palestinien. Du côté israélien, il faut attendre les élections législatives de 92 et l'arrivée au pouvoir de Yitzhak Rabin pour que la situation évolue. Lors de conférences internationales à Madrid, puis à Washington, et sous l'égide de la diplomatie norvégienne, les deux parties commencent enfin à discuter. Après de longues tractations et d'innombrables rencontres secrètes, la situation semble évoluer et ce sont les accords d'Oslo. Le 13 septembre 1993, flanqué du président américain Bill Clinton, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se présentent devant les caméras du monde entier dans les jardins de la Maison-Blanche à Washington.
De cette journée historique, on retiendra aussi cette image extraordinaire, l'image de trois hommes sortant de la Maison Blanche côte à côte, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Bill Clinton, le leader de l'OLP et le premier ministre israélien qui ont choisi d'engager leur peuple vers la paix, de croiser leur destin. Francine Raymond.
Il y a quelques jours encore, cette image aurait relevé d'un scénario de politique fiction. Sur les pelouses de la Maison Blanche se sont retrouvés tout à l'heure deux hommes qui ont passé l'essentiel de leur vie à se combattre. Sous les yeux du monde entier, Israéliens et Palestiniens solennellement enterrent la hache de guerre.
Ces accords marquent un tournant historique. et laisse espérer un règlement pacifique de ce conflit qui dure depuis 45 ans. L'établissement de l'autorité palestinienne et la reconnaissance de territoires où elle doit pouvoir exercer son autorité constituent une réelle avancée. Mais le morcellement du territoire palestinien et la présence toujours aussi importante de troupes et de colonies israéliennes en Cisjordanie, comme à Gaza, laissent présager d'un échec. D'ailleurs, ni Arafat, ni Rabin ne semblent y croire. Le premier affirme à la télévision jordanienne, le jour même de la signature des accords, qu'il ne renonce pas à conquérir le reste de la Palestine, quand le second affirme, quelques mois plus tard, aux députés israéliens, qu'il ne permettra pas le départ des troupes israéliennes à l'issue de la période transitoire. Comble du malheur, le 4 novembre 1995, le cancer politico-religieux frappe de nouveau, et cette fois côté juif. Un extrémiste orthodoxe assassiné Yitzhak Rabin, mettant un terme aux espoirs suscités par la signature des accords d'Oslo. Cette première intifada aura de multiples conséquences. D'abord les morts, près de 2000 du côté palestinien et 300 côté israélien. Et puis, à l'issue de 6 ans de soulèvement, l'image de l'État hébreu est considérablement dégradée. Jusqu'ici perçus comme victimes de l'oppression de ses voisins arabes, ses dirigeants sont largement critiqués pour leur gestion d'une révolte populaire majoritairement menée par des adolescents. Si à l'issue de ce long affrontement, l'autorité palestinienne voit le jour, l'intifada a surtout débouché sur la naissance d'un nouvel acteur dans les mouvements palestiniens, le Hamas donc. Un monstre poussé à son origine par les responsables israéliens qui, croyant bon de tenter de fracturer le camp palestinien, favorise en vérité l'émergence d'un mouvement terroriste dont on voit aujourd'hui encore les conséquences tragiques.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la première intifada et notre invité Frédéric Mettezo. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes invité chez vous, en fait.
Je suis à la maison.
Voilà. Donc, journaliste à France Inter, à la cellule d'investigation de Radio France, aujourd'hui. Mais vous êtes l'ancien correspondant de France Inter à Jérusalem et auteur du podcast Guerre au Proche-Orient, publié tous les mardis et tous les vendredis sur l'application Radio France, notamment. C'est bien ça?
Exactement.
Bien. Alors, on l'a dit durant le récit, le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans. Évidemment, la résonance depuis le 7 octobre est saisissante. Comment s'est caractérisée l'implantation du Hamas dans la société palestinienne? Là, on en voit le tout début, mais ensuite?
Le début, c'est d'abord une implantation sociale sur le terrain. Le Hamas, ou plutôt tous ces mouvements fréristes, sont d'abord des organismes presque caritatifs.
Ils font comme le Hezbollah aussi.
L'éducation populaire, voilà. Il y a des soupes populaires le soir du Ramadan, au moment de l'Iftar. Il y a des grands repas qui sont offerts par le Hamas. Donc, à l'origine, c'est un mouvement qui s'implante dans la société avec évidemment une composante très religieuse et peu à peu, cette composante de lutte contre l'occupation israélienne qui peu à peu va épaissir ce mouvement et en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui avec le point culminant qui est le 7 octobre et ses épouvantables massacres.
Alors, quand et pourquoi s'est opérée la fracture avec l'OLP dont on voit aujourd'hui les conséquences ?
En fait, dès le départ, c'est pas la même chose, puisque le Hamas devient très vite un concurrent de l'OLP parce que il montre une forme de piété, une forme de préoccupation des gens. Ça, c'est dans la première phase. Ensuite, au moment où l'OLP décide de faire le cheminement que vous avez raconté et de se rapprocher d'Israël, le Hamas, lui, dit qu'il faut détruire Israël, qu'il est le champion, je cite, de la résistance. Donc, avant même les accords d'Oslo, il y a déjà une divergence. Et ces divergences ne vont faire qu'augmenter, puisque l'OLP va jouer le jeu du dialogue et de la diplomatie, voilà, en signant les accords d'Oslo, ce que ne va pas faire du tout le Hamas, puisque les premiers attentats suicides en Israël du Hamas se provoquent encore du vivant de Rabin et au moment où Arafat est chef de l'autorité palestinienne. Donc il y a une divergence très tôt.
Alors, il y a un aspect très intéressant à souligner dans ce qui s'est passé sur ces territoires palestiniens contrôlés et administrés par Israël. C'est le côté générationnel, on l'a dit plusieurs fois dans le récit, parce que c'est important, ce sont des adolescents et des jeunes.
C'est les adolescents de 1987. On est 20 ans pile après la guerre des Six Jours et donc le début de l'occupation. C'est-à-dire que ces adolescents qui ont entre 13 et 18 ans, ils n'ont connu que l'occupation. Leurs grands frères de 20 ans n'ont connu que l'occupation. Donc on est vraiment sur la première génération complète qui a vécu sous occupation militaire israélienne. Et ça, ça change tout parce que plus l'occupation dure, plus, passez-moi l'expression, la température de l'eau va faire bouillir la marmite. Donc on a une génération qui n'a connu que ce que vous décriviez, les checkpoints, les contrôles d'identité, les difficultés de circulation, etc. etc. Donc vous regardez, 67 plus 20 égale 87.
Alors, il y a aussi la question, et elle est importante, des implantations, des colonies. Quel rôle ça joue dans l'éclatement de ce soulèvement? Parce que la colonisation, elle date pas de l'intifada, elle date d'avant. Non, mais qu'est-ce qui se passe?
Et ben, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des années, ces colonies juives en Cisjordanie, que les Israéliens appellent Judée-Samarie de son nom biblique, donc ces colonies, elles se développent de plus en plus. Donc une colonie, faut imaginer, ça ressemble un peu, vous savez, à ces lotissements dans les grandes banlieues françaises. C'est des grands pavillons.
Et des petits immeubles aussi.
Des petits immeubles très collés. Voilà, c'est très systématique. Tout ça entouré évidemment de barrières de sécurité, de routes d'accès réservées. Donc qu'est-ce que ça fait peu à peu? Ça morcelle le territoire palestinien, ça prive les Palestiniens de terres, alors même, vous l'avez rappelé, que la démographie est galopante. Donc, vous avez de moins en moins de place pour vous, les Palestiniens, alors que la population augmente. Et donc, ce qui était avant un territoire continu est de plus en plus grignoté pour arriver à la situation qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez, la carte de la Cisjordanie, on appelle ça la peau de léopard, parce qu'on a un territoire qui est dessiné en jaune avec des taches beiges qui sont les colonies israéliennes et qui sont partout en Cisjordanie.
Et c'est une tendance qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, là?
Là, on est au maximum de la colonisation. Ça n'a jamais été autant colonisé. On a 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. C'est considérable. Et cette colonisation qui commence dès 1967-68, elle s'est accélérée dans les années post-Oslo, c'est-à-dire au moment même où on parlait d'un processus de paix, eh bien, il y a aussi eu un processus de colonisation. Et là, qu'on ait des gouvernements de droite ou de gauche, d'ailleurs, en Israël.
France Inter. Affaires sensibles.
Frédéric Mettezo, on l'abordait dans le récit, la présence israélienne dans les territoires palestiniens a signifié également l'intégration, du moins en partie, des territoires palestiniens dans l'économie, avec des infrastructures. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un progrès, quelque chose de positif à ce niveau-là? Est-ce que ça a vraiment bénéficié à ceux qui en avaient besoin?
Alors, le niveau de vie global en Palestine a augmenté. Ça, c'est certain, puisque beaucoup de Palestiniens allaient travailler comme ouvriers agricoles. Il y en avait même chez des personnalités de droite. Ariel Sharon, qui avait un ranch, avait des tas d'employés palestiniens dans son ranch. Donc, ces ouvriers agricoles, ces ouvriers de chantier, j'en voyais quotidiennement chez moi à Jérusalem, des Palestiniens de territoire occupé qui venaient tous les matins. Donc ça, oui, ça a fait augmenter le niveau de vie global. Mais après, il y a des poches de pauvreté, notamment dans les camps de réfugiés qui ont persisté. Mais c'est pas parce que vous payez bien un Palestinien qui sera bien payé par rapport à un Israélien. Ça veut dire que pour Israël, les Palestiniens, c'est une main-d'œuvre bon marché, quasiment inépuisable et tout près de chez vous. Donc finalement, pour l'économie israélienne, ça ne coûte pas grand-chose. Et pour l'économie palestinienne, oui, c'est vrai que le niveau de vie était en augmentation marquée, et même en 87, au moment où commence l'intifada.
Alors, la première intifada, parce qu'il y en a une deuxième, on va en parler, est donc aussi appelée la guerre des pierres. Les Palestiniens n'avaient pas d'armes, ou alors c'était une stratégie de s'en tenir aux pierres, aux cocktails Molotov, et d'envoyer des ados pour dire, voyez, on n'a pas les mêmes forces, devant on a une super armée professionnelle.
C'est un peu les deux à la fois. D'abord, à cette époque-là, il y a quand même une surveillance, puisque Israël occupe aussi le cœur des villes palestiniennes. L'armée israélienne est dans les villes. Le Shin Bet, les services de renseignement aussi. Donc c'est plus facile encore de contrôler le trafic d'armes, la prolifération d'armes, etc. etc. Ensuite, oui, évidemment, envoyer ces jeunes gens en première ligne avec leur front, monde. C'est David et Goliath, sauf qu'aujourd'hui, en tout cas dans le récit dont on parle, eh bien, le petit David avec sa fronde, c'est le Palestinien, et Goliath, c'est l'armée israélienne. Donc c'est les deux. Il y a d'abord l'absence d'armes en abondance, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi tout cet impact communicationnel de l'intifada.
L'arme médiatique où l'on montre un gamin palestinien tué dans une rue. Et on le montre, assassiné.
Ou des Palestiniens qui sont battus à coups de bâton, à coups de barre par des soldats israéliens. C'est une vidéo qui avait fait scandale et il n'y avait pas besoin d'avoir les réseaux sociaux. Ça viralisait déjà beaucoup, on disait.
Juste par la télé.
Par la télévision.
À l'époque. Alors, il y a une première intifada, donc il y en a une autre. Hein. Une deuxième qui a débuté en 2000 jusqu'à 2005. Quelles sont les raisons, quels sont les ingrédients de cette deuxième intifada?
Les ingrédients de la deuxième intifada, c'est l'échec du processus d'Oslo, c'est-à-dire que nous avons plusieurs acteurs opposés entre eux, mais qui se retrouvent à s'opposer ensemble sur les accords d'Oslo. Je m'explique. Les accords d'Oslo sont combattus par le Hamas, par Benjamin Netanyahou et par l'extrême droite israélienne sioniste religieuse.
Donc par l'opposition au gouvernement israélien de l'époque. Hein,
voilà, exactement. Donc le Hamas commet des attentats suicides, on se souvient de ces images, des autobus qui explosent à Tel Aviv ou à Jérusalem. Et dans un autre sens, la droite israélienne mène une campagne extrêmement violente, voire haineuse contre Yitzhak Rabin en disant « il abandonne nos terres, il a offert aux Palestiniens ces terres qui nous avait été donné par Dieu. » On se souvient de ces manifestations anti-Rabin qui étaient très très violentes. On voyait des panneaux où il était déguisé en SS ou bien où il était déguisé, grimé d'un kéfié d'Arafat. Et dans ces manifestations, on trouvait tout l'état-major du Likoud. Donc,
de la droite israélienne,
exactement. Le parti de Benjamin Netanyahou. Donc, les attentats suicides du Hamas d'un côté, la pression de la droite et l'assassinat d'Yitzhak Rabin, ça fait que le processus de paix explose, que ça se dégrade lentement au fil des ans et qu'on arrive à une situation totalement incontrôlable à partir du début des années 2000. Mais ce que je trouve très étonnant, c'est que ces acteurs des années 90, donc anti-Oslo, Hamas, Netanyahou, extrême droite israélienne religieuse, et ben vous les retrouvez aujourd'hui en 2023. Le Hamas est au pouvoir à Gaza et Netanyahou est au pouvoir en Israël, allié à l'extrême droite.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans la société israélienne? Parce qu'on se souvient de mouvements de gauche pacifistes, un mouvement qui s'appelait La Paix Maintenant. Vous vous souvenez bien?
Shalom Arshav. Voilà. La Paix Maintenant, exactement.
Bien sûr, c'est au-delà de vous souvenez, vous connaissez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce glissement? Est-ce que Israël a été embarqué dans ce balancier réactionnaire occidental qu'on connaît aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'ailleurs?
La société israélienne juive est de plus en plus à droite. Le parti travailliste de Ben Gourion, de Golda Meir, d'Itzhak Rabin et Shimon Peres, aujourd'hui, il a 3 députés. Il a 3 députés.
Ça ne vous rappelle pas quelque chose
d'autres
pays occidentaux, hein.
Ça concerne énormément de pays, absolument. C'est une société qui est aussi de plus en plus religieuse. La part des juifs observants dans la société israélienne a grandi. Et ces personnes, souvent, votent soit pour l'extrême droite, soit pour les ultra-orthodoxes qui sont alliés à la droite. Donc oui, c'est un glissement chez certains qui n'est pas seulement nationaliste, qui est même messianique. Ouais. Pour certains, il faut coloniser la Judée-Samarie pour permettre le retour du Messie. Et ça, c'est un mouvement extrêmement puissant et extrêmement fondamental dans la société israélienne.
Merci Frédéric Mettezo.
Merci.
À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la première intifada, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.